Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis d'Orwell et aujourd'hui on va parler du procès sur Villiers-le-Bel.
Calé dans son canapé, t'as l'air content. Collé au programme TV comme au jupon de ta maman. Des week-ends entre poteaux, super, super. Au concours du lever de coude, ah, t'as du savoir-faire. Et dans ta Range Rover, y'a pas de quoi être fier. Moi, j'ai qu'une chose à te dire, de l'air. De l'air. Ah, t'es le meilleur VRP, VRI impressionnant. Et tes blagues sur les blonds, trop top au restaurant. Moi je te dis pas merci pour tous les anniversaires, les week-ends, les mois d'août au club avec ta mère. Ta maison préfabriquée, ton barbecue, tes haltères, ta collègue d'Ange Oliver et les cadeaux de ta sœur. Ton caméscope numérique avec toutes ses options, tes rêves d'Amérique, j'ai des visions. Moi, mon bonhomme, je veux du trash, du speed, partir en vrille, bouffer du sac à dos et me la jouer road movie de l'île à Mexico. Je veux descendre du comptoir et boire du mojito et flinguer ce bâtard de Bill dans le prochain Tarantino. Je veux du motel pourri, boire ma vie au whisky, tu m'entends? Oh, Las Vegas parano pour moi, ah, c'est du gâteau. You drive me crazy. You drive me crazy. Ah, ça te fait marrer, tiens. T'as plus rien à dire ou quoi? T'as perdu ta langue? Allez, vas-y. Tu peux crier, tu peux gueuler. Moi, je vais prendre mes clics, mes claques et je vais tracer la route. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? Tracer la route. Tu peux toujours gueuler.
Vous êtes bien sûr Radio Libertaire, vous écoutez l'émission Les Amis d'Orwell. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un pour le procès de Villiers-le-Bel.
Tu voulais pas annoncer la musique?
Ah oui, la musique, j'ai oublié. On a écouté The Maxi Monster Music Show, voilà, qui voilà. Était le Maximum Quête avant.
Donc c'était Bénédicte à la technique, donc il y a Jean-Pierre et donc Guilhem du collectif Pas du gibier à flic,
c'est ça.
Donc peut-être on peut commencer par rappeler les faits. Qu'est-ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel en novembre 2007?
Oui, alors donc Villiers-le-Bel, novembre 2007, 25 novembre, il y a une voiture de police qui percute une mini-moto avec deux jeunes dessus, Laramie et Mouchine, qui meurent. Enfin, il y en a un qui meurt pratiquement sur le moment, et un autre qui est durement blessé et qui meurt quelques heures plus tard. Cette mini-moto qui tombe par cette technique du pare-chocage qui est assez habituelle chez les flics. Et donc les deux nuits qui suivent, le 25 au soir, le 26, même un peu le 27 aussi, il y a des émeutes à Villiers-le-Bel, et donc des émeutes assez importantes quand même, puisque les flics sont assez tenus en échec, disons, et qu'il y en a 96 qui reçoivent des impacts de chevrotine. Et donc le procès, c'est justement à cause de ces impacts de chevrotine.
C'est pour ça que ça passe aux assises.
Voilà, alors le procès, il a commencé le 21 juin, et donc ça passe aux assises, le procès doit finir...
Voilà, donc on va rappeler aujourd'hui, donc on est en enregistrement, donc on est mercredi 30 juin, et le procès donc, se termine vendredi 2 juillet, et vous êtes mardi, donc on est un peu en avance sur les événements.
Donc on ne sait pas encore le verdict aujourd'hui, mais bon, on n'a franchement pas beaucoup d'espoir face à la justice de ce pays, même si le procès jusqu'à maintenant se déroule plutôt bien, on pourrait dire, pour la défense, les avocats se démerdent assez bien. On voit de plus en plus qu'il n'y a pas trop d'éléments à charge contre ces inculpés.
Donc c'est le... Enfin, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a quatre personnes donc, qui sont en procès pour tentative de meurtre en bande organisée et détention et port d'armes prohibées, plus une autre personne qui est accusée de complicité.
Exactement. La cinquième personne qui est accusée d'avoir fourni l'arme en fait, aux autres inculpés. Donc voilà, c'est quatre inculpés-là. Pour l'instant, on aurait l'impression qu'il n'y a pas trop de preuves contre eux. On tendrait à dire qu'ils ont été un peu choisis, peut-être pas au hasard, mais il y en a certains qui sont un peu, enfin qui approchent la trentaine, qui sont très connus dans le quartier, comme un peu ce que les médias appellent les grands frères, un peu. Enfin, c'est des jeunes qui sont un peu des références dans le quartier, apparemment. Et donc, facile à dénoncer aussi, parce que vu que tout le monde les connaît, c'est sûrement... c'est un des éléments qui fait qu'ils ont été accusés par d'autres personnes, puisqu'on rappelle qu'un des éléments principaux de l'accusation, c'est des témoignages anonymes ou des témoignages en garde à vue.
Et tu ne voulais pas nous situer le contexte avant de parler un peu de Villiers-le-Bel?
Oui. Parfaitement. Villiers-le-Bel, c'est donc dans le 95, en région parisienne. C'est une ville qui a beaucoup changé ces dernières décennies, disons, puisqu'en 1950, il y avait 5000 habitants, donc c'était un village. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est 26000 habitants. La ville, elle est vraiment coupée en deux par une route nationale. Et d'un côté, il y a les pavillons, et de l'autre côté, il y a les HLM, les grands ensembles. Et c'est quand même, la ville compte 50% de logement social. J'ai pas les chiffres des chômeurs, des revenus et tout, mais on peut imaginer la situation d'une ville comme ça qui a beaucoup grandi dans l'après-guerre. Et donc 50% de logement social, à mon avis, c'est assez important à retenir. Et donc l'ambiance à Villiers-le-Bel, ça a été dit dans le procès, c'est qu'il y a pas mal de rumeurs qui courent dans tous les sens. Et que ça, c'est... En fait, en assistant au procès, moi, personnellement, je n'ai pas assisté, parce que je travaillais. Mais les personnes qui ont assisté, ils soulignent justement qu'il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et ce qu'il y a, c'est finalement des témoignages anonymes ou en garde à vue qui reprennent des rumeurs, qui...
Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu l'historique par rapport à novembre 2007, par rapport aux opérations policières qui a eu lieu en 2008, que tu nous expliques un petit peu comment on en est arrivé là, en fait, au procès, quoi.
On va faire ça un peu plus ordonné. Donc novembre 2007, il y a la mort de ces deux jeunes, il y a deux nuits d'émeute surtout, et puis après...
Donc 90 policiers blessés, dont 5 grièvement par du plomb.
Oui.
Ça, c'est pour rappeler les faits. Après, 18 février 2008.
Oui, juste pour dire, grièvement, c'est 5 jours d'arrêt de travail, en fait. Donc, voilà.
D'accord.
C'est de la chevrotine contre des policiers, des Robocop hyper protégés, boucliers, protège tibia, protège pare-balles, gilet pare-balles, etc. Casque, tout l'arsenal qu'on connaît bien.
Donc c'est la première fois que les flics se font autant taper dessus.
C'est
quoi.
Une première, oui. Et d'où, en fait, un des éléments, c'est que les policiers, ils disent, c'est vraiment une émeute organisée. Et c'est là qu'ils insistent beaucoup aussi, c'est que les quatre inculpés sont accusés d'être un peu les caïds, quoi, les chefs de cette émeute. Un des trucs qu'ils disent, voilà, c'est en 2005, c'était un peu improvisé. Par contre, en 2007, à Villiers-le-Bel, d'après les policiers, c'est une émeute
donc
super
2005,
organisée.
Donc 2005, tu parles de Clichy-sous-Bois.
Oui, Clichy-sous-Bois, et puis un peu partout en France. Enfin, de ce que disent les policiers, il y a vraiment une différence à Villiers-le-Bel, et la différence concrète, c'est qu'il y a 96 policiers blessés, quoi. Donc ensuite, février 2008.
Alors juste, donc si je comprends bien, donc suite à ces deux jours d'émeute, oui. Il y a des appels à témoins, c'est ça?
Il y a des appels à témoins qui sont distribués dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Je ne sais pas si dans tout Villiers-le-Bel, mais en tout cas dans les quartiers concernés.
Et surtout contre rétribution financière.
Alors,
à hauteur de plusieurs milliers d'euros.
Dans le papier, il disait avec possibilité de rémunération. Forcément, dans une ville comme ça, et même n'importe où, hein, dès qu'on a la possibilité, on voit l'argent, on jette dessus et puis on essaye de tirer quelque chose. Alors, justement, c'est une première aussi, le fait de proposer une rémunération pour des témoignages. Et ça, justement, dans le procès, on peut peut-être y revenir après, mais dans le procès, c'est un des éléments que la défense présente comme pour invalider le procès, en fait.
On sait déjà que les indics, en général, eux, sont rémunérés, mais c'est vrai qu'à cette échelle-là,
oui, mais
c'est quand même assez hallucinant.
Justement, apparemment, c'est un peu... Apparemment, il y a une différence entre témoin et indic. L'indic est rémunéré et il n'est pas forcément témoin. Il raconte des trucs qu'il a peut-être pas vu, mais entendu dire ou des choses comme ça. Le témoin, celui qui voit directement, et lui, légalement, il peut pas être rémunéré. Donc c'est pour ça que dans le procès, ça a été remis en cause. Et il y a un responsable de la police qui se défend, qui dit « Ah non, mais nous, on n'a jamais promis de rémunérer les témoignages. Oui, mais alors le papier que vous avez redistribué dans les... Ah non, mais c'est pas... On promettait pas. Enfin, ils ont pas payé, en tout cas, pour l'instant. Ils disent que non, que les témoignages seront jamais payés puisque c'est illégal. Donc c'est un flic qui parle, de toute façon. Donc qu'est-ce qu'il va dire ? Et puis, pour l'instant, ils n'ont pas payé. Ils vont peut-être payer quand le verdict sera donné. Fin...
Avec des témoins qui se rétractent, et après que les témoins remboursent.
Voilà, et là, les témoins qui se rétractent, les témoins sous X qui devaient se présenter au procès, se sont pas présentés. Et donc, parce que l'avocat disait qu'ils étaient déprimés, qu'ils avaient reçu de la pression. Peut-être qu'ils ont vu qu'ils n'allaient pas être rémunérés, du coup ils ne viennent plus, je ne sais pas trop. Mais...
Et pour revenir sur le rappel historique, donc le 18 février 2008, il y a des arrestations dans la cité.
Grosse opération, et pas seulement dans la cité, c'est donc février 2008, 1500 policiers qui débarquent à Villiers, à Villiers-le-Bel, à Gonesse et à Sarcelles. Avec
des journalistes à foison.
Avec des journalistes, exactement, qui procèdent à 33 interpellations. Alors, justement, sur les journalistes, c'est intéressant parce qu'il y a eu Paris Match qui accompagnait un des groupes de flics qui arrivait et qui interpellait un des accusés, justement, qui passe en procès en ce moment. Et Paris Match, donc, a pris en photo cette personne en caleçon, puisqu'il était tôt dans le matin, je ne sais pas si 6h ou 7h du matin, et il l'a publié. Et du coup, Paris Match a perdu un procès, je ne sais pas, j'imagine qu'ils doivent payer une amende. En tout cas, voilà, c'était une opération vraiment, grosse opération policière, 1500 flics qui bloquent les rues, bloquent les quartiers... qui arrivent à 6h du matin pour sortir les gens du lit et les emmener au commissariat. C'est une démonstration de force, et surtout avec les journalistes qui, à mon avis, jouent un grand rôle dans ce procès. Déjà à ce moment-là, lors des interpellations, où ils sont très présents, mais même il y a des images de M6 qui ont été utilisées pour reconnaître un des inculpés. Alors, je ne sais pas comment ils font pour reconnaître des inculpés, des gens qui portent une capuche en plein milieu de la nuit, alors que tous les réverbères étaient pétés. J'imagine pas comment ils ont fait ça. En plus que les flics, en général, ils filment tout déjà, donc je sais pas.
Et après, il y a eu un premier procès en juillet 2009. Hein.
Donc sur les 33 interpellés... pas tout le monde est passé en procès. Il y a une dizaine de personnes qui sont passées en juillet 2009, juillet dernier, pour jet de projectiles, jet de pierre. Et ils ont pris de 1 à 3 ans ferme.
Pour des jets de pierre.
Mais ils étaient en prison déjà ou ils sont rentrés après le procès ?
J'avoue, pour ces 10-là, je sais pas. Je sais que par contre, sur les 5 qui passent en procès en ce moment, il y en a 4 qui sont en prison justement depuis février 2008, qui sont pas ressortis en liberté. Il y en a un qui comparaît libre, plus ou moins, entre guillemets. Donc pour les 10, je sais pas.
Et mais on peut quand même répéter cette info, quoi. C'est qu'ils ont quand même pris 1 à 3 ans de tôle ferme pour jet de projectile, quoi. Sachant qu'il n'y en a aucun qui a avoué. Voilà, et que ça a été, l'enquête s'est faite sur des témoignages anonymes et des déclarations de jeunes qui étaient en placés en garde à vue, qui ensuite se sont rétractés. Ouais.
Alors, apparemment, dans ce procès-là aussi, il y a justement le rôle des témoignages anonymes et en plus rémunérés, c'est de faire parler les gens. Et apparemment, ils se balançaient un peu les uns les autres. Enfin, c'était pas très, très joli à voir, apparemment. Voilà, ça a parlé un peu dans tous les sens. On sait pas trop qui dit la vérité, qui ment. Mais bon, en tout cas, c'est sur la base des témoignages en garde à vue et des témoignages anonymes, grâce à cette petite feuille filée dans les boîtes aux lettres des gens, quoi.
Et donc on peut rappeler, donc tu fais partie du collectif Pas de gibier à flic. Et alors, quand est-ce que ce collectif s'est créé et
alors
pourquoi?
Justement, après le procès de juillet 2009, donc on savait que ce deuxième procès allait avoir lieu là en juin. Et donc il y a une campagne nationale qui a été lancée, enfin une campagne de soutien au niveau national qui a été lancée et qui a abouti à quelques concerts, des soirées, un peu partout, à Rouen, à Rennes, même à Genève, à Marseille. Et nous, on se disait que, enfin, on est quelques-uns à se dire, à ce moment-là, pourquoi il ne se passe rien sur Paris? Puis pourquoi on ne l'organise pas nous? Et puis comme ça, on a commencé à en parler, et puis on s'est regroupés à quelques-uns. On n'est pas vraiment une organisation, hein. C'est comme tu dis, un petit collectif qui s'est formé pour l'occasion. Donc pour organiser une soirée de soutien qui a eu lieu le 18 juin à la CIP, dans le 19e à Paris. Donc cette soirée de soutien, c'était d'abord une discussion, un débat, ensuite de la bouffe et puis des concerts. Et donc, je ne sais pas si j'explique un peu le déroulement de la soirée. Pour la discussion, on voulait soulever plusieurs choses. Déjà, rattacher cette histoire des tireurs de Villiers-le-Bel aux violences policières, puisque à la base, les seules personnes qui sont mortes, c'est deux mômes de Villiers-le-Bel, hein, faut le rappeler, qui n'étaient pas du tout armés, qui étaient dans leur moto, sur leur moto. Donc on a invité plusieurs collectifs de soutien à des victimes de violences policières. Il y avait le collectif Alizeri, qui est un vieux Algérien qui est mort un soir à Argenteuil. Il avait 60 ans et il est entre le moment où il s'est fait arrêter et l'arrivée au commissariat, ben il est mort. Il était accompagné et son copain a été accusé d'outrage en plus. Donc non seulement il voit son copain mort mourir sur le moment, mais en plus on le traîne en procès. Alors, il y avait aussi le collectif Lamine Dieng, qui est ce jeune homme qui a été tué dans le 19e.
Il a été retrouvé mort dans le camion de police.
Ouais. Et en fait, c'était par une autre méthode. On parlait tout à l'heure du pare-chocage. Là, c'est pas le pare-chocage, c'est une prise d'étranglement, non, c'est une prise pour immobiliser une personne. Mais en fait, ils se sont mis à 8 policiers sur Lamine Dieng. Donc forcément, il a étouffé.
Et juste pour rappeler, quand tu parles du pare-chocage, c'est quoi le but? Enfin, c'est clairement de faire tomber les...
Ah oui, pare-chocage, il y a pas mal de cas. C'est en fait quand il y a des jeunes sur une moto, un scooter, que les policiers n'arrivent pas à les interpeller, n'arrivent pas à les faire arrêter, ben, tout simplement, ils foncent dessus et ils font tomber la moto. Des fois, il ne se passe rien, puis les jeunes sont légèrement blessés, puis ils les prennent et puis ils les arrêtent. Et des fois, ça provoque la mort. Alors, juste pour info, rapidement, il y a Laramie et Mouchine qui sont morts en 2007 à Villiers-le-Bel. Mais j'ai noté aussi récemment, en août 2009, c'était à Bagnolet, Yaku Sanogo est mort avec la même technique. Hein. Puis il n'y a pas très longtemps, en janvier 2010, c'était à Voipy, en banlieue de Metz. Il y a pareil, trois jeunes qui sont tombés de leur moto à cause de cette technique. Il y en a un qui est mort sur le coup, les deux autres étaient blessés. Et bon, on n'en a pas trop parlé parce qu'il n'y a eu qu'une nuit d'émeute. Et donc voilà, mais bon, c'est une technique qui est assez couramment utilisée en tout cas.
Il y a le forum social des quartiers qui travaille là-dessus, c'est ça ?
Oui, il y a aussi... alors, justement, nous, on n'est pas forcément en contact avec eux. Hein. On n'avait pas organisé ça avec eux. On leur a proposé de venir, bien sûr. Et en tout cas, ils ont fait, en juin aussi, début juin, le 12 et 13 juin, ils ont organisé un forum justice pour parler des violences policières et pour essayer d'organiser une coordination de toutes les victimes. Et donc, voilà, c'est cette coordination qui essaye de se mettre en place. Hein. C'est lent à faire, parce que c'est pas toujours facile de parler de ces thèmes-là. Souvent, les proches des personnes qui sont mortes aux mains de la police, ben, ils ont un peu du mal à vraiment parler, à essayer de se rassembler avec d'autres gens qui ont subi la même chose. À chaque fois, il y a aussi la bataille judiciaire qui est dure, hein, déjà. Souvent, ce qu'ils veulent avant tout, c'est bon, au moins qu'il y ait un procès, au moins que les flics soient condamnés.
Et tu peux nous parler du collectif de Villiers-le-Bel ?
Alors,
peut-être on peut faire une pause musicale et puis après on continuera sur le collectif de Villiers-le-Bel.
Ouais, on va écouter The Chemical Brothers.
We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, donc vous êtes toujours avec les amis d'Orwell et on a comme invité Guilhem du collectif Pas du gibier à flic. Donc c'est un collectif qui s'est constitué suite au procès qui concerne 5 jeunes qui sont jugés aux assises suite aux émeutes qui ont eu lieu à Villiers-le-Bel donc, le 25 et 26 novembre 2007. Donc, je rappelle qu'il y a eu donc, 2 jeunes qui ont été tués suite à la technique, tu peux rappeler ?
Pare-chocage.
Du pare-chocage, donc les flics qui les ont fait tomber. Suite à ces 2 morts, il y a eu 2 nuits d'émeutes, 90 policiers blessés, dont 5 grièvement. Enfin, non, tu disais que ça faisait que 5 jours, de...
ouais.
5 jours d'arrêt de travail. Donc, suite à ça, les flics ont fait des appels à témoins en promettant... des indemnisations, voilà. Le 18 février 2008, donc il y a eu... moi, j'ai 37 arrestations, toi, tu disais 32, enfin, une trentaine d'arrestations.
Ouais, une trentaine.
Donc, il y a eu un premier procès en juillet 2009 avec une dizaine de personnes qui ont été en procès pour des jets de projectiles. Il y a eu des peines de 1 à 3 ans donc de prison ferme. Et des témoignages anonymes se sont rétractés suite à la suite du procès. Et enfin, donc là, depuis le 21 juin, donc il y a un procès aux assises à Pontoise, donc qui concerne donc cinq jeunes de 23 à 29 ans, donc qui sont accusés de tentatives de meurtre en bande organisée et détention et port d'armes prohibées. Donc là, c'est un peu, je rappelais un peu tous les faits depuis 2007. Donc on était en train de parler donc, des collectifs qui se sont constitués par rapport à ce que vous dénoncez comme un faux procès, en fait, avec tous ces faux témoignages.
Voilà.
Tu nous parlais donc de ton collectif qui s'appelle Pas du gibier à flic. Donc vous avez organisé... Alors, je rappelle que nous, aujourd'hui, on est le mercredi 30 juin. Donc, ce qui fait que, pour les auditeurs, le procès est terminé, alors que pour nous, il n'est pas encore terminé. C'est pour rappeler un peu la situation. Et donc vous aviez organisé...
Une soirée sur Paris, dans le 19e, à la CIP. Ce que je racontais, c'est qu'il y a eu un appel à une campagne de soutien au niveau national et même international, puisqu'en Suisse, à Genève, il y a une soirée.
Et tu nous disais donc c'était cette campagne nationale avait été lancée par Benjamin, l'épicier de Tarnac, qui se trouvait en prison avec un des jeunes.
Ce que j'ai eu l'impression, en fait, notre collectif et tous les collectifs qui ont monté d'ailleurs des soirées un peu partout en France, ça a été des collectifs locaux qui n'avaient pas forcément de lien direct avec les gens, ni avec les gens de Villiers-le-Bel, ni avec les gens qui ont lancé la campagne. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, la campagne nationale, la campagne d'appel, l'appel à la campagne de soutien national, c'était un peu après que Benjamin, l'épicier de Tarnac, et un des inculpés qui passe aujourd'hui en procès, se soient rencontrés en prison. Et donc, ils ont, entre autres, ils ont fait un petit film qui s'appelle « Fallait pas ». Alors, c'est « Fallait pas nous mettre dans la même prison ». Vous pouvez le trouver sur Internet, super, super accessible. Puis voilà, à partir de cette rencontre, ils ont trouvé qu'ils coïncidaient pas mal dans leur vision d'un certain nombre de choses de la société française aujourd'hui, quoi. Et du coup, ils ont lancé cette campagne de soutien. Donc Benjamin de l'extérieur, puisque lui, il a passé que, si je me trompe pas, 2-3 mois en tôle. Alors que la personne qu'il a rencontrée, enfin l'inculpé qu'il a rencontré, il y est resté 2 ans. De février 2008 à juin 2010, même un peu plus. Et il risque d'y, rester un peu un bout de temps encore.
Et donc, juste, donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé personnellement alors, à participer à ce collectif,
hein? Alors, déjà, Villiers-le-Bel, moi, je m'en souviens assez bien quand ça s'est passé en 2007. Je me souviens que j'avais été assez surpris par... par la violence des émeutes. Moi, à cette époque-là, j'habitais à Montreuil. Je suivais de loin comme ça, et puis j'ai vu que c'est vrai que bon, si ça avait duré une semaine, peut-être que j'y serais allé. Hein, mais bon, j'étais en tout cas surpris de la violence des émeutes, du fait que tous les jours il y avait des policiers qui étaient blessés, etc., etc. Et du coup, c'est un peu la référence. J'ai l'impression, hein, chez pas mal de gens, Villiers-le-Bel, c'est ça fâchait beaucoup les policiers, le gouvernement, Sarkozy, qui a promis tout de suite de trouver des coupables et de les faire pourrir en prison. Et d'un autre côté, c'est un peu la première fois, comme on disait tout à l'heure, où c'était vraiment la police n'a pas réussi à contrôler la situation, quoi. Et du coup, en fait, voilà, au niveau personnel, c'est un peu... je m'en souvenais, puis en discutant avec des proches, on se disait c'est un peu con qu'il y ait aucune soirée, aucun événement qui s'organise à Paris. Alors il y avait déjà de prévu une manif à Pontoise, juste le samedi, juste avant le début du procès, le 19. Et nous on s'est dit on pourrait organiser une soirée juste avant. Et du coup on s'est réunis, on a contacté un peu des gens qui voulait bien nous donner un coup de main. Et puis finalement, ça s'est fait. On a fait ça le 18 juin à la CIP.
Vous avez du monde ?
Alors, il y avait du monde difficile à évaluer. Hein, je pense qu'au début, pendant la discussion, il y avait, moi, je dirais, une centaine de personnes. Puis ensuite, pour le concert, il y a plus de gens qui sont passés. Je sais pas, je dirais peut-être 300 au total qui soient passés, parce que les gens sont arrivés, ceux qui sont arrivés tôt, ils sont partis tôt. Puis après, voilà, il n'y avait pas d'entrée payante, donc on n'a pas compté les gens qui entraient de toute façon. Donc voilà.
Et juste pour rappeler par rapport donc, à la position des amis d'Orwell, je sais pas, peut-être que. Nous, on avait invité Jean-Pierre Garnier, je sais pas si tu le connais, c'était il y a pas longtemps en fait. On discutait de cette question des émeutes et à savoir si c'était vraiment une démarche politique. On n'en est pas, enfin en tout cas avec Jean-Pierre Garnier, on n'est pas convaincu que ce soit vraiment une démarche politique. Mais en tout cas, nous, pourquoi on t'a invité et pourquoi on veut parler de ce procès, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est un faux procès avec des faux témoignages et qu'on veut absolument trouver des personnes pour les condamner parce qu'il faut des coupables, quoi.
Alors, du coup, qu'est-ce que c'est si c'est pas politique, quoi?
Ça se discute et justement, c'était pour ça qu'on a organisé...
Non, mais je parlais de la démarche des jeunes qui n'était pas forcément politique. D'accord. Après, effectivement... Là, on est dans la politique, c'est pour ça qu'on... Voilà.
Je vois que justement le débat... justement, c'est pour ça qu'on a voulu organiser la discussion avant le concert. Et c'était un des sujets qu'on voulait traiter, quoi. Parce que, nous, on était... En tout cas, moi, je vais parler en mon nom, parce que voilà, le collectif, on ne se connaît pas tous forcément très bien, donc je parle en mon nom. Pour moi... c'est peut-être pas politique de la manière... il y a différentes manières d'entendre le mot politique, je pense. Et pour moi, c'est extrêmement politique de faire une émeute pendant 2 jours et de, et de se confronter aux flics pendant deux jours. Après, ça se discute et justement, enfin, c'est pour ça aussi qu'on a organisé le débat. Donc, le débat, c'était un peu en plus en mode provoque, puisque le texte qu'on avait écrit rapidement, enfin, c'était une des phrases, c'était un noir à capuche blanche est un barbare et un blanc à capuche noire est un militant politique. Alors justement, on forçait le trait, mais c'est pour voir en fait comment on peut décider ce qui est politique et ce qui est pas politique, comment ça se fait. Enfin, déjà partir du constat qu'il y a une séparation, hein, qu'il y a un écart entre en général les militants politiques et en général, je fais des généralisations qui valent rien, mais bon, et en général les jeunes de banlieue, et que dans les quartiers, dans les cités, il y a une présence policière quotidienne et qui touche très fort autant les jeunes que les pas aussi jeunes, hein, et qui provoque la mort des fois. Et c'est vrai que les militants, ils sont confrontés à une violence de la police, mais qui est différente. Et c'est pas la même violence, et c'est pas pour autant que nous, les militants, où on peut aller donner des leçons à eux, les jeunes de banlieue.
Et apparemment, depuis l'événement de Villiers-le-Bel, c'est absolument hallucinant la présence policière, notamment le soir dans les rues, etc. Enfin, oui. Moi, j'ai lu pas mal de papiers là-dessus. Je suis pas allée, mais c'est vrai qu'apparemment, c'est assez impressionnant.
Oui, c'est vrai que c'est devenu une sorte de laboratoire de ce qui peut être fait en termes de maintien de l'ordre public, quoi. C'est une présence policière, enfin vraiment constante, avec des différents corps qui font une sorte de roulement pendant la journée et le soir. Alors, il y a les UTEC qui sont arrivés il n'y a pas trop longtemps, c'est les unités territoriales de quartier qui sont surarmées, qui sont là que le soir. Pour donner un exemple, hein, mais il y en a, parfois ils se baladent en groupe de 6, alors il y en a 3 qui marchent normalement, quoi, et il y en a 3 qui marchent à reculons pour pas donner le... pour pas montrer le derrière aux jeunes, quoi, parce que en fait je sais pas si je m'exprime bien,
enfin,
donc voilà, pour c'est vraiment avec le flashball dégainé, enfin c'est vraiment situation de guerre, quoi, et donc avec plein de corps de police qui passent tout le temps, donc depuis les émeutes c'est devenu encore pire que ce que c'était, si c'était possible encore que ça devienne pire, quoi. Et bon, nous, ce qu'on voulait, c'est déjà qu'il y ait un peu une réflexion là-dessus, quoi. Qu'on réfléchisse à comment ça se fait déjà que, ben, il y a des quartiers où il n'y a pas un seul militant, hein.
Mais alors, justement, parce que il y a un collectif qui s'est créé à Villiers-le-Bel qui s'appelle le collectif Respect, Vérité, Justice. Peut-être, ouais, que tu peux nous en dire deux mots.
Alors, sur Villiers, il y a ce collectif-là, c'est des jeunes ou un peu moins jeunes militants, enfin ouais, militants on peut les appeler, hein, c'est des jeunes du quartier,
quoi. Oui.
Ouais, pour le coup, voilà, ils se bougent beaucoup, ils sont très présents dans le quartier, ils sont vraiment assez connus dans le quartier, et du coup, enfin, eux, ils sont, d'après ce qu'ils m'ont raconté, ils faisaient déjà des trucs avant les émeutes, mais c'est vraiment après les émeutes qu'ils sont constitués en association formelle, et donc à la fois en soutien aux familles de Laramie et Mouchine, et à la fois en soutien aux inculpés des deux procès qu'il y a eu. Donc voilà, nous on les connaissait pas avant d'organiser la soirée, hein, je le dis tout de suite. Par contre, après, on les a vus. Ils étaient là pendant la soirée. Ils étaient là au débat. Ils sont restés un peu pour le concert aussi. Ensuite, on les a vus le lendemain à la manif. Ils sont très présents au procès à Pontoise. Voilà, c'est un peu la seule association de Villiers-le-Bel avec qui on a justement ce point de rencontre possible autour de ça, quoi.
Oui, parce que tu me disais qu'il y avait des débats sur la façon dont les militants, justement, avec les jeunes du quartier, les militants s'y rapprochaient. Quelle liaison il peut y avoir entre les deux, quoi, entre les... Comment tu définis ça, quoi,
entre militants et...
l'association de Villiers-le-Bel et...
Pour l'instant, c'est vrai que l'association de Villiers-le-Bel, elle est très attachée à... à être sur le terrain, en fait. Ce qui implique aussi de pas... venir très souvent nous rencontrer, discuter, tout ça, parce que les réunions, bah, c'est utile, mais c'est pas, pour eux, c'est pas le principal, et eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment être présents sur le quartier. Ce qui fait que, bon, moi, personnellement, je les ai pas rencontrés des milliers de fois, je les ai rencontrés 3 fois, et voilà. Après, je trouve qu'ils sont, vraiment dans une bonne optique, quoi. Par contre, comment faire pour que... Enfin, ça me fait penser à l'association qui s'est créée après 2005 à Clichy-sous-Bois, à Cellefeu, qui a été assez rapidement... pareil, ils sont créés en association et ils ont été assez rapidement proches de la mairie, disons. Ils ont, d'après ce que j'ai compris, eux, par contre, ils ont l'air d'être très, très méfiants vis-à-vis de la mairie, et c'est réciproque, quoi. Donc, dans une ville comme Villiers-le-Bel, à mon avis, c'est important, puisque toutes les associations sont assez sont subventionnées par la mairie, ils se connaissent. Enfin, c'est voilà, les associations de ce type de ville, ils se connaissent un peu tous, avec le maire, avec les adjoints.
Il y a une autre association qui s'est créée après une violence policière, c'était Bouge qui bouge, ouais, à Damary-les-Lys. Et à chaque fois, donc, par rapport au caractère politique, à chaque fois que le pouvoir voit que les gens des cités s'organisent, c'est pire que... Qui se forme en association, ils craignent plus ça encore que les émeutes. Et à ce moment-là, ils font pas de cadeaux, quand même, en général, aux associations qui rentrent pas dans le moule. Hein. Parce qu'à Damary, ils ont eu... Je me rappelle qu'ils en avaient subi un paquet. Alors là, je sais pas.
Alors, il y avait un exemple que tu donnais à la manifestation, un peu, on va dire, de différence qu'il peut y avoir entre les militants anarchistes ou d'extrême gauche et puis le collectif.
Oui, c'est
respect, vérité, justice.
C'est bien sorti autant au moment du débat, de la discussion de la soirée, que le lendemain, au moment de la manif. Je donne l'exemple de la manif. La manif à Pontoise, c'était une marche silencieuse. Ça avait été convoqué par l'association Respect, Vérité, Justice de Villiers-le-Bel et par les familles. Et donc, c'était une marche silencieuse. Par contre, il y avait pas mal de militants anars aussi de Paris, surtout anars. Hein. Et donc, il y a des gens qui ont voulu gueuler. Police partout, justice nulle part, flic port assassin, enfin des trucs qu'on connaît, quoi. Et en fait, dès qu'ils commençaient à gueuler, il y avait des gens de Villiers qui les entouraient, leur disaient non, taisez-vous, taisez-vous, faut pas crier. Et donc ça a créé quelques petites tensions, parce que bon, voilà, et en même temps, ils se taisaient à chaque fois. Enfin, ils n'ont pas essayé non plus de forcer ou quoi que ce soit. Ils ont respecté ça, puisque, et moi, je trouve que c'est normal, quoi. La marche était convoquée par des gens qui ne voulaient pas qu'on gueule. Puis, juste à la veille du procès, c'était pas très malin de commencer à insulter les flics, puisque le juge attend que ça. Après, ça se discute, hein, mais bon, si ça avait décidé comme ça, faut respecter, voilà. Mais ça a choqué. Et puis, pendant le débat, c'est pareil. Je me souviens, une jeune fille qui a intervenu pour dire « Bon, moi, mon vécu, j'aurais pas l'idée de créer une association, de créer une association légale, quoi. Parce que mon vécu fait que je suis... Enfin, j'ai pas envie de le faire. » Mais je vois que voilà, il y a des gens qui le font plus souvent que nous, quoi, qui trouvent que c'est le mode d'action logique dans ce cas-là. Et donc c'est une militante anarchiste qui disait moi je suis prête à faire une association, quoi. Enfin, construire quelque chose ensemble implique de créer une association, moi, je vais oublier tout mon vécu, enfin, pas oublier mon vécu, mais laisser de côté mes petites résistances à ce genre de trucs pour créer une association, quoi. Donc voilà, c'est un peu, enfin, c'est que c'est pas ce qu'on voulait montrer, ce qu'on voulait souligner, c'est que il y a un vécu différent que la présence policière et la répression ne s'exercent pas de la même manière dans les quartiers populaires que contre les militants. Et qu'en plus, on ne s'organise pas de la même manière. Et que, pour moi, par exemple, dans une manif, c'est normal de gueuler. Et puis, des fois, ça arrive qu'il y a des affrontements contre les flics, mais dans les manifs. Par contre, à Villiers-le-Bel et dans plein d'autres quartiers, ce qui est plus normal, c'est pas de faire des manifs, c'est plutôt d'avoir cette présence policière quotidienne. C'est de leur jeter une petite pierre de temps en temps. C'est quand il y a un fourgon qui passe et qu'on est en groupe, le caillasser. C'est quand ils se tournent, jeter une petite insulte. Et voilà, c'est un truc quotidien parce qu'on le vit au quotidien et que peut-être que, dès qu'on est très jeune, on est habitué à avoir cette confrontation. On a déjà fait plein de gardes à vue quand on a 18 ans. Et puis voilà, c'est un type différent. Et on s'organise d'une manière différente. Il y a des fois où ça pète, il y a de nuit des meutes. Et puis après, il y a des associations qui se créent.
Et alors justement, avant de parler plus précisément du procès qui concerne les cinq jeunes aux assises, on n'a pas parlé du procès des flics justement qui ont provoqué la mort des deux jeunes le 25 et 26 novembre 2007.
Oui, parce que, à la base, ce qui s'est passé, c'est la mort de deux jeunes, je répète. Et donc c'est ces policiers qui étaient dans la voiture, ils ont déclaré, mais déjà ils ont déclaré, le juge les a entendus, mais ils ont déclaré les quatre ensemble. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été entendus séparément, ce qui est complètement contraire à toute procédure normale, quoi. Ensuite, eux, ils ont affirmé qu'ils étaient à 30 à l'heure, je crois, qu'ils n'avaient pas le gyrophare, qu'ils n'étaient pas en... Je sais pas comment ils disent ça, ils n'étaient pas en intervention, je crois.
Ouais, c'est ça avec le gyrophare.
Voilà. Par contre, la preuve, les experts, je sais pas comment on appelle ça, mais l'expertise a dit que, en fait, c'était impossible qu'ils soient à 30 à l'heure, qu'ils étaient en train d'accélérer quand ils ont, percuté la mini-moto. Qu'ils étaient, apparemment, d'après certains témoins, ils étaient justement en intervention avec le gyrophare et tout le truc, et que justement, eux, les policiers disent qu'ils n'étaient pas en train de poursuivre les jeunes, mais que les jeunes n'ont pas respecté la priorité et qu'ils n'ont pas pu éviter de percuter la mini-moto. Alors, quand on sait qu'ils avaient le gyrophare allumé, qu'ils étaient en accélération, et ça, c'est les experts judiciaires qui le disent eux-mêmes, voilà.
Alors, ça donne quoi le verdict ?
Ça donne quoi ? Ça donne qu'ils avaient eu un non-lieu après être entendus et après ce rapport des experts. Mais la famille a fait appel, les familles ont fait appel. Et donc, forcément, la justice va reprendre le procès. Je n'ai pas les dates en tête. Bon, en tout cas, ils vont repasser devant le... Au moins pour être réentendus, pour voir leur réaction face au fait que les experts contredisent totalement leur version, quoi, et que, au moins qu'ils s'expliquent là-dessus, quoi.
Donc on peut peut-être, si Jean-Pierre a une question ou Bénédicte, passer donc au procès. Est-ce que tu suis, il y a des membres de ton collectif qui vont au procès depuis le début, donc ouais. Je pense que tu as des choses à raconter.
Alors, c'est difficile, je sais pas trop par où commencer, mais alors disons que ces quatre inculpés, ils sont principalement accusés sur la base de témoignages anonymes. Que ces témoins anonymes, on peut parler de ça, c'est que ces témoins anonymes qui devaient se présenter au procès cette semaine, ils sont pas venus. Apparemment, ils sont déprimés. Et les témoignages sont assez contradictoires. Les inculpés, ils disent qu'ils ont rien fait, sauf, il y a sur les cinq, donc il y en a quatre qui sont accusés d'avoir tiré. Et un cinquième qui est accusé de complicité pour avoir fourni l'arme. Ok. À partir de là, ils ne sont pas tous au même niveau. Il y en a un qui paraît libre et qui apparemment aurait un peu balancé tous les autres. Alors, des preuves matérielles, il n'y en a pas. Justement, celui qui aurait fourni l'arme, si je ne me trompe pas, il a, en garde à vue, il a décrit... Il a décrit l'arme et il a décrit les projectiles, donc les balles, quoi, les balles utilisées. Apparemment, ça correspondait parfaitement à ce que la police a trouvé. Donc, y a... ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais de là, pour moi, la question... Enfin, bon, bref. Et ils ne sont pas tous au même niveau parce qu'il y en a qui sont... qui ont rien dit et justement qui n'ont pas balancé de nom et qui justement on soupçonne que c'est un peu pour ça qu'ils sont là, qu'ils sont justement inculpés parce que tous les autres se sont un peu balancés les uns les autres et ils ont voulu rien dire. Donc voilà, ceux qui ont dit quelque chose et qui sont rétractés, c'est pris à charge contre eux pour dire voilà, il y a des pressions, il y a la loi du silence dans les cités et donc voilà, et pareil pour les témoins anonymes qui se présentent pas, c'est c'est donc qu'il y a la loi du silence, il y a des
pressions. Ceci dit, on ne peut pas nier que ça existe aussi.
On ne peut pas nier que ça existe aussi, mais par contre, on nie complètement que sous garde à vue, on est aussi sous pression. Et que voilà, ce qu'on dit en garde à vue, c'est pas, on ne le dirait peut-être pas à un autre moment. Quoi. Et que c'est normal aussi que les gens disent des trucs en garde à vue parce qu'ils sont sous pression et qu'après, ils se rétractent. Mais pour la juge, la présidente du tribunal, la présidente du jury, elle est convaincue qu'ils sont coupables. Et elle fait, c'est vraiment une pression énorme, quoi. Enfin, elle est vraiment. On a vraiment l'impression que c'est décidé d'avance.
Donc il y a un jury populaire quand même qui
oui,
va
exactement
décider.
Ouais. Après, la présidente du jury met quand même beaucoup la pression sur les avocats, sur les inculpés, sur les témoins, etc. Après, la défense a marqué quelques petits points. On peut en parler peut-être. C'est, par exemple, il y avait un témoin anonyme, soi-disant anonyme, qui s'est avéré être un indic de la police, un indic habituel de la police. Alors, justement, ça pose problème, puisque peut-être que tous les autres le sont aussi. Et du coup, en fait, c'est pas vraiment des témoins, mais plus des indics, justement. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont peut-être pas vu forcément, mais c'est tout sur la base de rumeurs.
Et en plus, ils avaient assuré qu'aucun témoin n'avait été rémunéré. Et un indic, c'est rémunéré, de voilà, quelque façon que ce soit.
Ouais. Donc, justement, c'est... Ouais, c'est compliqué. Là aussi, là-dessus, une des bases de la défense, un des points les plus importants, c'est que, en fait, il n'y avait pas de raison pour garder les inculpés 2 ans en prison. Et que, vu qu'il n'y a pas vraiment de preuves matérielles, ils auraient dû les relâcher tout de suite, pratiquement. Et faire le procès s'ils veulent, mais en tout cas, qu'ils ne restent pas en tôle 2 ans. Donc ça c'est, enfin la défense c'est surtout sur la procédure en fait, sur la rémunération des témoignages, sur justement, enfin c'est une première, hein, je rappelle, ils ont jamais rémunéré avant des témoignages et ils disent eux-mêmes que c'est illégal, donc je sais pas comment ils vont.
Moi j'avais lu dans un article que les informations qu'avaient données les témoins n'étaient pas suffisamment importantes pour qu'ils soient rémunérés, donc j'imagine que ça doit exister quand même. Bon.
Et ils rémunèrent pas s'il y a pas si les inculpés sont pas condamnés aussi. C'est-à-dire que si s'avère que les informations sont pas fiables, enfin sont s'avère pas vraies, bah ils sont pas rémunérés logiquement. Donc pour l'instant ils ont pas été rémunérés en tout cas. Et les réponses du responsable de la police sont assez, il est embarrassé quand même le bonhomme parce que. Voilà, il y a quand même ce document-là qui a été retrouvé, hein, un document qui a été filé dans toutes les boîtes aux lettres du quartier, appelant à un témoignage avec possibilité de rémunération. Donc voilà, même si après, en plus, j'ai envie de dire, c'est encore pire, quoi. Si tu promets la rémunération et après tu la donnes pas, c'est vache quand même, quoi. Et du coup, ça fait juste que les gens, ils se présentent, ils essayent d'aller parler. Et même, ce document, il a été mis 2 fois. Parce qu'une première fois, donc il y a eu cette espèce de tract mis dans les boîtes aux lettres et les gens ils se méfiaient un peu, apparemment il y a eu des visites à la mairie pour demander oui mais c'est vraiment la police qui a dit ça parce qu'ils disaient ouais c'est peut-être justement les inculpés eux-mêmes qui ont écrit ça pour trouver qui sont les balances ou je ne sais quoi. Puis donc il y a eu un deuxième document qui répétait exactement la même chose, hein, un deuxième document qui était mis dans les boîtes aux lettres. Donc voilà, ça veut bien dire que c'est leur méthode pour ce procès-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut...
Je sais pas, en tout cas, si t'as pas d'autre chose à dire sur le procès, quelles sont les perspectives?
Si ça peut revenir, mais...
en tout cas, aborder la question des perspectives, en fait, pour votre collectif.
Alors, bon, déjà, pour notre collectif, on va être présent. On a été présent pendant le procès. Ensuite, le jour du verdict, vendredi, on sera là. Et je pense qu'il va y avoir plein de monde à Pontoise. Quand l'émission passera, ça sera déjà passé, donc j'espère qu'il y avait du monde, hein. à la fin du débat, on s'était plus ou moins, tout le monde était d'accord pour se revoir, pour continuer avec ça. Alors d'un côté, il y a cette coordination des victimes de violences policières qui se met en place doucement, donc ça c'est un peu à part. Mais ensuite, il y a aussi l'idée que, voilà, d'essayer de rassembler à la fois les victimes de violences policières et les militants sur Paris, sur la région parisienne, disons. Et donc, autour de ces sujets-là, on s'est réunis à partir de Villiers-le-Bel, mais pourquoi pas continuer sur d'autres sujets, sur d'autres cas, sur d'autres choses. Je pense que les gens, ils étaient disposés à continuer à se revoir. En tout cas, en septembre, ça c'est sûr, on va réorganiser quelque chose à la CIP si c'est encore ouvert.
A priori, vous n'avez pas de site internet, mais vous avez un mail
Une adresse mail. C'est pas du gibier à flic, en minuscule, sans accent, tout ensemble, @gmail.com. Pas du gibier à flic, @gmail.com. Donc si vous voulez nous contacter, vous nous envoyez un petit mail.
En tous les cas, c'est important ce que vous faites, c'est-à-dire que les gens des cités ne soient pas dans leur isolement et soient. C'est une démarche importante que d'aller dans ces procès et de suivre. En fait, il y a deux aspects, il y a les violences policières et les liens qu'on peut maintenir avec les gens. Sur place, quoi.
Exactement.
Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que c'était pas toujours politique, c'est ça qui peut donner justement, sans doute, permettre que ça ait une autre dimension que celle que ça a souvent, quoi.
Oui, c'est... En fait, je sais pas, je trouve que déjà, en discutant avec eux, ils ont déjà des positions très... qu'on peut appeler carrément politique, même si des fois ils sont quand même méfiants vis-à-vis de la politique. Si tu leur dis qu'ils font de la politique, ils te diront non, mais la politique c'est de la merde, moi j'en fais pas. Derrière cette position un peu épidermique, je pense qu'ils en font de la politique. Et c'est, à mon avis, c'est à nous aussi de montrer que la politique c'est pas juste les partis, mais que c'est aussi les gens qui se bougent, quoi, tout simplement, et que eux ils se bougent dans leur quartier. Moi personnellement, je me bouge dans mon quartier surtout. Après, on a organisé ça, donc voilà. Je me suis bougé aussi pour Villiers-le-Bel, mais c'est pas exclusif, quoi. Et je pense que c'est déjà politique que de bouger dans le quartier, quoi.
Oui, d'accord.
Merci Guilhem. Donc voilà, c'était les amis d'Orwell, et vous retrouvez toutes les émissions sur souriez.info.
Et on se quitte avec Metallica.